critique.
Raphaël Bourgois.
Les idées au banc d'essai, Avis Critique explore toutes les disciplines et les indisciplines. Ce soir, comme chaque semaine, deux essais sous les feux de la critique, deux livres qui se penchent un an après la première mobilisation des Gilets jaunes le 17 novembre 2018 sur les spécificités de ce mouvement inédit. Dans In Girum, les leçons politiques des ronds-points publiées à La Découverte, Laurent Jean-Pierre revient sur cette contestation sociale qui a surpris, ébranlé le pouvoir, mais aussi les certitudes de la science politique. L'hypothèse du politiste, c'est qu'elle marque l'avènement d'un nouvel imaginaire propre à mobiliser quand tout le reste semble avoir disparu, ce qu'il appelle les potentialités libératrices et démocratiques du local. Nous nous pencherons ensuite sur les vertiges de l'émeute de Romain Huet, publié aux Presses universitaires de France, pour un regard en immersion au cœur de la violence émeutière qui a marqué la contestation sociale ces dernières années. Son objectif, en saisir la dimension sensible, les affects, pour restituer avant tout une expérience charnelle, non dénuée, là encore, de sens politique. Et en studio pour débattre ce soir de ces deux livres, en ce jour anniversaire, je le disais, Joseph Confavreux de Mediapart, bonsoir.
Bonsoir Raphaël.
Et Jean-Marie Durand, journaliste indépendant, bonsoir Jean-Marie.
Bonsoir Raphaël.
Alors je vous propose de commencer par le livre de Laurent Jean-Pierre, In Girum, Les leçons politiques des ronds-points, publié donc aux éditions La Découverte. L'auteur est professeur de sciences politiques à l'université Paris 8 Saint-Denis et membre du Centre de Recherche Sociologique et Politique. Il est spécialiste de la sociologie des intellectuels et des idées. Il avait d'ailleurs co-dirigé avec Christophe Charles, les deux gros volumes de la vie intellectuelle en France, paru au Seuil en 2016. Il s'est aussi beaucoup penché sur l'histoire des idées de gauche et c'est d'abord avec cela en tête qu'il aborde le mouvement des Gilets jaunes. Il le dit en introduction du présent essai, il ne prétend pas énoncer la vérité cachée de la rébellion jaune, mais souhaiterait simplement se laisser ébranlé par elle, car comment aborder autrement un mouvement qui a défié toutes les classifications, improbable dans sa genèse, inventif dans ses expressions, impur idéologiquement? Il n'avait aucun des ingrédients prévus par la science politique pour réussir. Or, les Gilets jaunes ont réussi d'une certaine façon, en obtenant d'abord du président Emmanuel Macron et de son gouvernement le retrait de la mesure fiscale qui avait déclenché la mobilisation et un certain nombre de concessions plus générales. Un enseignement peut toutefois être tiré. Les Gilets jaunes ont acté la fin de la centralité ouvrière qui continuait de marquer les antagonismes sociaux. Laurent Jean-Pierre risque ici une hypothèse, avec toutes les précautions d'usage, compte tenu du peu de temps qui nous sépare d'un mouvement toujours actif et dont il rappelle tout de même utilement certaines étapes, le contexte politique et quelques éléments de sociologie. Son hypothèse, c'est que par-delà leur diversité générationnelle et sociale, les Gilets jaunes auraient en commun d'être des entravés dont la mobilité spatiale ne recoupe plus aucune mobilité sociale, qui craignent pour leur avenir et celui de leurs enfants. Il en tire la conviction que ce nouveau rapport au temps et à l'espace vient conforter une relocalisation du politique. Jean-Marie Durand, c'est un essai qui était sorti en août, hein, mais sur lequel il est peut-être utile de revenir aujourd'hui, un an tout juste après la première manifestation des Gilets jaunes.
Tout à fait, il est sorti donc il y a quelques mois déjà, comme vous le dites, et surtout le livre a été écrit avant l'été, donc au moment même où le mouvement des Gilets jaunes se déployait encore. Donc il était dans un rapport, j'allais dire, forcément un petit peu tendu, compliqué pour un scientifique. C'est toujours pareil, un sociologue est toujours confronté à un événement, toujours dans un rapport un peu difficile entre le besoin de distanciation objective et en même temps être proche de l'événement. On se souvient par exemple d'un livre un peu important qui était sorti en juin 68, juste après les événements de mai, écrit par Castoriadis, Claude Lefort et Edgar Morin, qui s'appelait La Brèche, qui était quand même un peu un modèle comme ça d'un livre d'auteur, de sociologue qui essayait de comprendre la force de l'événement. Et c'était un geste évidemment assez important. Et on voit bien que mai 68 a mis des décennies à trouver encore des analyses. 50 ans après, des sociologues se déchirent peut-être pas, mais en tout cas discutent entre eux pour essayer d'interpréter un événement comme celui-là. Et on voit bien que les Gilets jaunes et Laurent Jean-Pierre, on est évidemment tout à fait conscient et lucide, mettra probablement beaucoup encore d'années pour essayer d'identifier ses ressorts, comprendre son originalité, parce que c'est vrai que c'est l'un des angles d'attaque de son livre, c'est qu'en effet, les Gilets jaunes est un mouvement un peu inédit, vous l'avez dit, assez improbable à la fois dans sa jeunesse, assez bizarre dans ses modes d'expression, assez en effet impur idéologiquement dans le sens où on n'a pas vraiment une facilité à le classer politiquement et c'est ce qui fait d'une certaine manière sa force et son originalité. Mais là où Laurent Jean-Pierre est à mon avis passionnant dans son livre, c'est que il prend acte en effet de ce mouvement un peu singulier, mais il le raccroche aussi à toute une tradition de mouvement protestataire qui pour lui déjà remonte à plusieurs années, qu'il essaye d'identifier, de théoriser à partir de ce que vous avez appelé le retour au local dans une tradition.
Ouais, c'est son expression à lui.
Voilà, hein, c'est pas moi qui... d'une tradition, disons, de retour à la commune, hein, communaliste. On va en parler parce que c'est une clé évidemment forte du livre, une idée centrale, inspirée par exemple par les travaux du libertaire américain qui s'appelait Murray Bookchin, vous voyez, qui est une sorte d'icône un peu maintenant dans les mouvements communalistes et libertaires, qui invitait à une revisitation, enfin un réinvestissement du local comme niveau politique important. Et donc il essaye de se mettre dans ce double mouvement, pour le dire un peu facilement, enfin de manière un peu générale, à la fois proche du mouvement lui-même, c'est-à-dire en essayant d'être fidèle à son exceptionnalité, à son originalité, à sa spécificité qui est de fait forte, et en même temps à le réintégrer dans un mouvement plus général, protestataire, qui pour lui est une manière d'interroger la manière d'envisager la protestation politique, le rapport aux partis politiques, aux organisations, à l'État et évidemment à la vie locale, on va en venir.
Oui, si on doit donner, Joseph Confavreux, encore quelques éléments de contexte avant de rentrer dans l'analyse développée par Laurent Jean-Pierre, on peut dire que pour Laurent Jean-Pierre, le mouvement des Gilets jaunes, c'est la deuxième phase d'une même médaille, celle qui a vu aussi l'élection d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire dans un contexte où les mobilisations politiques, les mobilisations syndicales, les mobilisations citoyennes s'affranchissent d'un certain nombre d'encadrements qui étaient les encadrements habituels. Et donc on est dans ce moment un petit peu chaotique où les choses se recomposent. Et donc on a d'un côté l'élection d'Emmanuel Macron, de l'autre les Gilets jaunes. Et donc il va y avoir une sorte de mouvement dialectique entre les deux que va analyser aussi Laurent Jean-Pierre.
Oui, c'est là où Laurent Jean-Pierre, à partir de son métier de politiste, fait quand même œuvre vraiment utile, même si évidemment on a beaucoup parlé des Gilets jaunes et donc on retrouvera dans le livre des choses qu'on connaît déjà, mais il se laisse ébranler, et d'ailleurs il demande aussi aux journalistes, à beaucoup de commentateurs de se laisser ébranler, parce que le mouvement des Gilets jaunes, comme il dit, a fait disparaître tout un continent politique avec ses institutions, ses catégories, ses pratiques, et ça donne quand même des leçons politiques, mais ça donne aussi des leçons scientifiques. Comme il dit, la science des mouvements était formelle, une contestation sans organisation, sans leader stable, sans ressources et sans expérience politique antérieure ne saurait perdurer, et parce que cette vérité a été malmenée pendant quelques mois, il a bien fallu réviser nos connaissances. Et à partir de là, il dit bien, hein, c'est un travail de seconde main, c'est pas des analyses, des observations directes, il y en a eu, mais je trouve qu'il fait un livre assez élégant à l'image de son titre, hein, Ingy Room, qu'il faut peut-être expliquer, parce que c'est le début du palindrome, sans doute le plus long et le plus célèbre de la langue latine, alors je vous ferai pas en entier, mais qui en traduction française veut dire « nous tournons en rond dans la nuit et nous sommes consumés par le feu ». Il y a aussi un peu un jeu de mots, ça peut, on dit « in vino veritas », ça c'est « ingi rum veritas », peut-être que dans les ronds-points, il ne cherche pas la vérité des ronds-points, mais je trouve qu'il a la bonne attitude, c'est-à-dire non pas de chercher alors quelle est la couleur des gilets jaunes comme on l'a beaucoup fait, mais plutôt de dire que qu'est-ce que ce mouvement fondé sur donc cet habit réfléchissant et fluorescent reflète, et il reflète une vraie rupture avec les cadres scientifiques qu'on connaissait, et c'est ça qu'il développe, lui, en le raccrochant à ce qui l'intéresse, c'est-à-dire effectivement la relocalisation du politique.
Et qu'on comprenne bien, hein, cette injonction en quelque sorte à se laisser ébranler faite par Laurent Jean-Pierre, c'est qu'il revient sur les débuts des Gilets jaunes, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un an, donc on s'en souvient quand même, et sur ce qu'il appelle une sorte de déqualification symbolique, Jean-Marie Durand, c'est-à-dire qu'au début c'est vrai qu'on a beaucoup analysé ce mouvement comme un mouvement réactionnaire, poujadiste, néo-poujadiste, voire fascisant, enfin au début ça a d'ailleurs continué, et d'ailleurs il lui a été reproché, je le disais, le livre est sorti déjà fin août, donc il y a déjà eu un certain nombre de critiques du livre. Il a été reproché justement de mettre un petit peu de côté, d'occulter un petit peu cette dimension proprement réactionnaire et complotiste même, on pourrait dire, du mouvement des Gilets jaunes, en tout cas de certains de ses représentants.
Ouais, mais je crois pas qu'il occulte cette réalité-là, et je pense qu'il en est lucide. Le problème, c'est qu'en effet, c'est un mouvement qui est transclassiste, qui est complètement, j'allais dire, hybride idéologiquement. Et en gros, il y a un tiers des militants Gilets jaunes qui viennent plutôt de la gauche, un tiers plutôt, disons, de se faire plutôt, en effet, droite, etc. Enfin, c'est impossible de définir. En fait, ce qui est intéressant, surtout à retenir, c'est que pour la plupart d'entre eux, d'abord, c'est ce qu'on appelle des nouveaux entrants, c'est-à-dire des gens qui n'avaient jamais manifesté, qui n'avaient même pas forcément d'engagement politique très clair formulé. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, la politisation des Gilets jaunes est venue avec le mouvement lui-même. C'est qu'ils se sont inventés aussi, d'une certaine manière, un rapport à la politique en militant, en s'engageant dans ce mouvement-là. Et donc, c'est pas un mouvement qu'on peut, en effet, circonscrire, définir de manière très, 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 très très clair. Enfin, il est beaucoup plus composite que ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il déploie précisément une attente, une espérance politique qui n'était pas extrêmement bien formulée jusque-là.
Mais ce qui me semble intéressant par rapport à ce que vous disiez, Raphaël, parce qu'on a beaucoup dit que le mouvement des Gilets jaunes, c'était au fond le miroir d'Emmanuel Macron, un mouvement ni droite ni gauche, qui embranlait tous les cadres sur lesquels s'était fondée la science politique française et ses institutions. Or, il dit bien, c'est là où Laurent Jean-Pierre, c'est à la fois un politiste, un historien, il dit qu'au fond, la singularité du mouvement des Gilets jaunes, même si démographiquement, ça n'a pas l'ampleur hein, de 1936, des grèves de 47, de 68, c'est pas finalement cette impureté qui en fait la spécificité. Parce qu'il dit, au fond, la diversité idéologique de la protestation sont pas un motif d'originalité ou de surprise que si on pense que, de toute façon, les luttes sociales sont homogènes. Or, dans des moments, alors qu'on les appelle révolutionnaires, ou en tout cas subversifs, ou des moments de grande rébellion, de toute façon, les gens qui les composent ne sont pas homogènes politiquement, idéologiquement. Donc voilà, ce qui me semble vraiment intéressant, c'est qu'il dit que, aussi singulier soit-il, ce soulèvement, et il dénie pas ça, il n'est pas isolé. En fait, il fait écho à un ensemble d'expériences, ses expériences municipales, mais aussi, il cite un texte de Eyal Weizmann, qui est le génial inventeur de Forensic Architecture, qui a fait une approche spatiale des soulèvements, et qui montre qu'en fait, cette révolution des ronds-points, ce fait de tourner autour des places, il remonte jusqu'à des manifestations en 1980 en Corée du Sud, il passe ensuite par la place Tahrir, en Égypte, par Téhéran. Voilà, il inscrit, je trouve, de manière assez quand même brillante, parce que c'est pas évident, ce que ce mouvement a ébranlé, tout en le resituant sans en faire une paternité qui ferait que ce mouvement serait le descendant de ça. Il en fait une vraie genèse, au fond.
Alors, un mouvement divers, on l'a dit, mais dans lequel Laurent Jean-Pierre, dans son livre, donc Injirum, les leçons politiques des ronds-points, tire justement une leçon au moins, un élément d'identité, d'identification, c'est ce qu'il appelle les entravés, l'entravement, le fait que les gens qui y participent sont au carrefour d'un questionnement, d'une peur autour des mobilités géographiques et de la mobilité sociale. Et donc, c'est à la rencontre de ces aspects temporels et spatiaux que Laurent Jean-Pierre va loger son premier élément d'analyse, en quelque sorte, Jean-Marie Durand.
Tout à fait. Ces entravés à la mobilité, et de sa manière, ils tournent en rond, comme disait Joseph. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, quand même, une sorte de d'impossibilité d'inventer un futur émancipé. Et donc, c'est vrai que c'est un peu le tout l'enjeu. Et c'est là où Laurent Jean-Pierre, il me semble, touche un point très très juste, en tout cas, hyper intéressant à analyser quand on observe disons l'espace politique contemporain, c'est qu'on voit bien que ce mouvement protestataire s'inscrit dans une tradition qui existe depuis, comme je disais tout à l'heure, depuis quand même pas mal d'années, et en gros qui abandonne un peu ce qu'on appelle les rapports de production, comme la question de l'organisation du travail, du monde du travail, pour passer à ce qu'il appelle lui une autre focale qui serait la focale de l'idéal communal, qui est ce qu'il appelle la sphère de la reproduction. C'est-à-dire qu'en gros, les Gilets jaunes laissent de côté les problématiques qui sont liées à la production, qui sont vraiment structurelles dans le monde syndicaliste, dans les mondes des mouvements protestataires en France depuis plus d'un siècle, évidemment, pour maintenant s'intéresser en effet à finalement la vie quotidienne. C'est-à-dire que ce qu'il appelle la sphère de la reproduction, c'est tout ce qui concerne finalement la question du logement, de la santé, du soin, toutes ces questions de la nourriture, de l'alimentation, toutes les questions de vie quotidienne deviennent aujourd'hui décisives et centrales dans les problématiques et dans les enjeux théorisés par les Gilets jaunes eux-mêmes, dans des formes d'ailleurs très nouvelles, hein, parce qu'on a beaucoup parlé de la forme assemblée qui a été aussi réactivée beaucoup.
Comme à Commercy, par exemple.
À Commercy, voilà, l'Assemblée
des Assemblées. Par Laurent Jean-Pierre.
Tout à fait, voilà, qui est une forme assez intéressante, qui renvoie aussi, Laurent Jean-Pierre s'intéresse beaucoup à ça depuis longtemps, aux utopies communales, aux kibbutz, mais lui, aux coopératives, mais il inscrit aussi dans, il leur rapproche des ZAD, de tout ce qui est aussi de Nuit Debout aussi, tous ces mouvements un peu politiques qu'on a vus depuis plusieurs années en France, finalement, pour lui, dessine un horizon politique assez commun. Et c'est ces problématiques, disons, en partage, que les Gilets jaunes, d'une certaine manière, ont réactivé de manière très très sensible et forte, qui sont aujourd'hui au cœur d'une réflexion politique.
Oui, c'était juste pour situer Laurent Jean-Pierre, en effet, dans son analyse de ces mouvements. Il me semble qu'il avait dirigé un excellent numéro de la revue Critique de mémoire sur Fourier, notamment. Ouais. Voilà, ça fait partie des personnages qu'il a pu étudier, Joseph Confavreux.
Oui, et sur lesquels, effectivement, c'est là où il apporte, je pense, le plus d'éléments par rapport à ce qu'on a pu lire sur les gilets jaunes. Quand même, l'avantage de parler de ce livre aujourd'hui, et pas juste quand il est sorti, c'est qu'entre-temps, il y a eu le Chili qui est parti sur une mobilisation sur le prix du ticket de métro, les révoltes en Équateur qui sont parties aussi sur le prix de l'essence. C'est-à-dire que ça, définition d'aujourd'hui, une mobilisation des classes moyennes paupérisées qui ne peuvent plus accéder à la promesse de la mobilité courante qui était celle quand même du néolibéralisme, eh ben, elle prend aussi une résonance qui dépasse, je trouve, le cas français. Juste à partir de ce qu'on a vu là, même le fait que les Libanais, au départ, c'est une taxe sur l'application WhatsApp, voilà, on est encore dans ce dans ce moment, on n'est pas dans les émeutes de la fin même des années 2010 qui avaient précédé les printemps arabes. On est dans des formes d'émeutes, ou en tout cas de protestations sur la mobilité, sur la capacité de se mouvoir, et je trouve que là, il anticipe un peu sur ce qu'on est en train de vivre à l'échelle mondiale.
Rapidement, parce qu'il faudrait qu'on parle en effet aussi du communalisme qui vient conclure ce livre de Laurent Jean-Pierre, mais sur cette impossibilité d'inventer, que vous citiez tout à l'heure, Jean-Marie Durand, il s'agissait évidemment de dire impossibilité d'inventer dans les cadres politiques et sociaux actuels. Et donc, Laurent Jean-Pierre va aussi analyser la réponse qui est celle du gouvernement d'Emmanuel Macron. Il fait cette analyse en termes de sanctions et de participation. La sanction, c'est évidemment la montée en puissance, si je puis dire, de la répression des émeutes. On a vu encore récemment dans Le Monde qui a publié les chiffres des gardes à vue, des blessés, etc. C'est assez impressionnant. Et la participation, c'est-à-dire la mise en place du grand débat national. Et donc, Laurent Jean-Pierre nous dit, cette alliance de la sanction et de la participation, eh ben, ça nous vient du New Public Management. Donc voilà, la boucle est bouclée.
Tout à fait, c'est que ce qu'il appelle l'impératif participatif, qui s'est concrétisé en effet dans le grand débat, qui a été quand même en grande partie quand même un faux semblant, puisque je rappelle juste quand même que de ce grand débat, le gouvernement n'a retenu que l'idée qu'il fallait baisser les impôts, ce qui est quand même un peu une sorte de dirais un peu une ironie quand même quand on voit les propositions qui ont vraiment existé dans des cahiers de doléances qui ont été aussi une des formes un peu nouvelles de ce mouvement-là quand même. Et cet impératif participatif se mêle en effet à ce qu'il appelle un impératif sécuritaire, qu'on a vu évidemment à l'œuvre dans les violences policières pendant un an quand même, qui ont été très documentées, on en a déjà parlé plein de fois ici. Mais ce que lui, ce que Jean-Pierre identifie, en tout cas critique, c'est que son hypothèse, disons, c'est que la redistribution de la parole, que le grand débat était censé, disons, incarner, s'est substituée à la redistribution sociale. Et donc, comme si finalement, c'était une carotte un peu relative qui venait, disons, accompagner le bâton de la répression. Et c'est tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce mouvement des Gilets jaunes n'a pas trouvé de solution politique. Et on voit bien qu'on est confronté évidemment à un angle mort, et donc à une difficulté à imaginer ce que mouvement. Alors aujourd'hui on parle des élections municipales à venir comme si c'était un enjeu pour beaucoup d'entre eux. C'est vrai que c'est un enjeu. Le problème, c'est que l'échelle locale ne se joue pas que uniquement à travers la question des représentants, mais c'est plutôt aussi sur des formes politiques assez nouvelles. Il parle beaucoup des ronds-points, mais aussi des cabanes, de toute une nouvelle aujourd'hui rhétorique de contestatrice, d'une technologie de lutte assez nouvelle, qui aujourd'hui est dans un entre-deux, entre à la fois la contestation du monde réel tel qu'il existe aujourd'hui, et puis c'est une préfiguration d'autre chose, d'autres formes de vie, d'autres manières d'exister, et cette tension-là est encore présente, et il l'identifie très bien dans le livre.
Ouais, un nouveau répertoire d'action qui lui fait se demander, Joseph Cafavreux, si on assiste là à un nouvel encadrement des critiques sociales. Il n'a pas de réponse, Laurent Jean-Pierre, à cette question.
Il n'a pas de réponse, mais il montre quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le système politique et économique répond de deux manières aux demandes sociales, la délibération à outrance et la répression à foison. Deux technologies qu'on pensait un peu incompatibles, même s'il montre bien que le grand débat a inventé une nouvelle forme de participation qui était la participation par monologue. c'est quand même vraiment intéressant parce qu'en gros, il montre bien qu'il y a eu concomitance entre le moment du grand débat et le démantèlement des cabanes sur les ronds-points, comme pour séparer les gilets jaunes en deux groupes, les manifestants ouverts à la violence et les protestataires ouverts à la discussion. C'est là où je trouve qu'il fait un assez bon miroir, c'est-à-dire qu'à la fin du livre, il se demande, bon, au fond, qu'est-ce qui reste des gilets jaunes? Et un an après, on peut se poser cette question. Il dit que du côté, il y a peut-être pas grand-chose de recodable, rien de massif, juste une collection hétéroclite de bouleversements biographiques, et ce serait déjà beaucoup. Mais il dit, du côté du pouvoir, il y a un nouvel arsenal et des nouveaux savoirs sur le gouvernement des masses. Et je trouve que c'est là où le livre, quand même si ça reste un essai, on n'aura pas le tout des gilets jaunes, mais et non seulement une bonne synthèse de ce qu'on a vécu depuis un an, mais un bon point de départ pour voir qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Et c'est là où lui, sa piste, ce serait le communalisme libertaire, mais permet quand même de dire, bon bah voilà, face à quel pouvoir on est, un pouvoir qui a disposé de nouvelles technologies de pouvoir, et aussi des protestations qui refusent toutes les technologies habituelles, la représentation, en gros tout ce qui était les outils habituels et notamment de la gauche et qui donc fait que c'est pas un mouvement très facilement appropriable.
Oui, Jean-Marie Durand, un dernier mot quand même sur cette idée de communalisme libertaire. On a quand même commencé à en parler en citant notamment Murray Bookchin, ce philosophe libertaire américain qui a un petit peu théorisé cette question. Et puis en plus comme ça nous fera la transition vers le prochain livre qui nous parle des ZAD aux gilets jaunes.
C'est vrai que les théories communalistes contemporaines aujourd'hui se développent pas mal. C'est vraiment une tendance un peu nouvelle. On en parlait tout à l'heure avec Joseph. C'est vrai qu'elles sont aujourd'hui une des manières peut-être de réinventer la manière de faire la politique. Et évidemment, elles s'opposent au mépris assez général des élites, même au dédain des professionnels de la lutte eux-mêmes. On voit bien que c'est le mouvement des gilets jaunes a suscité beaucoup de rejets, évidemment, chez les élites politiques et sociales en général, et même les professionnels de la lutte à gauche. Alors même s'il y a eu dans le mouvement, il a évolué avec le temps, et c'est vrai qu'après un premier temps un peu compliqué, disons, le mouvement syndical s'est un petit peu réindexé, raccroché au mouvement, mais on voit bien qu'il déstabilise aussi ses repères, et de cette manière on voit bien qu'on est dans une tradition politique assez nouvelle, vieille, ancienne, mais réactivée, et qui aujourd'hui est peut-être un horizon intéressant, fragile, d'ailleurs Laurent Jean-Pierre en est conscient, mais en tout cas on voit bien qu'à partir de là, peut peut-être s'inventer quelque chose de nouveau.
Oui, parce que c'est vrai que c'est un mouvement qui refusait assez systématiquement qu'on parle en son nom, d'être représenté, même de parler tout court. Et donc forcément, une des questions qui se pose, c'est celle de son avenir politique. Et bien peut-être que les élections municipales qui arrivent en 2020 vont donner un certain nombre de réponses. En tout cas, ce sur quoi s'interroge Laurent Jean-Pierre aussi à la fin de son livre « In Jirum, les leçons politiques des ronds-points », c'est aux éditions La Découverte.
France Culture, Avis Critique,
Raphaël Bourgois.
Bleu, comme Lola l'a sous mes yeux, comme la mer qui veille et qui va. Bleu, comme les nuits des amoureux, quand les corps s'éveillent tout bas. Bleu, comme partir sans dire adieu, comme un secret sans aveu qui s'éteint en silence. Bleu, comme si la vie était un jeu, comme l'espoir délicieux d'une dernière chance. Ma vie en voix de toutes les couleurs, même dans le noir, je les connais par cœur. Mais au bout du compte, une seule vraiment compte, c'est la couleur de l'amour. On bouge comme de l'air qui bouge, comme une fièvre qui brûle et qui éclate. On bouge comme une danse en dalle, des gestes qui hurlent et gâtent. Rouge comme les mots qui s'affirment, comme les cris qui dégoulinent quand monte la colère. Rouge comme les coups qui s'impriment, comme les larmes qui se dessinent quand tout va de travers. Ma vie en voix de toutes les couleurs.
Couleur de l'amour par NAC, la couleur de l'amour, on en a bien besoin dans ce monde de brut. C'est en tout cas ce dont on va parler dans le deuxième temps de l'émission. Je vous propose de nous pencher maintenant sur le livre de Romain Huet, Le vertige de l'émeute, de la ZAD aux gilets jaunes, publié donc aux presses universitaires de France. Romain Huet est maître de conférences en sciences de la communication à l'université Rennes 2. Ses recherches portent sur le rapport entre souffrance et lutte sociale. Il a notamment proposé une ethnographie de lieux de contestation comme la Syrie ou l'Ukraine. C'est donc en ethnographe qu'il propose de répondre à cette question. pourquoi tant de personnes se laissent aussi aisément gagner par ce qu'il appelle le vertige de l'émeute. Ce terme est important car il place son analyse dans le registre de l'émotion, du sensible, plus que de l'approche intellectuelle. L'émeute suscite une manière de sentir et d'éprouver soi-même dont il est difficile de déduire une stratégie politique, ce qui ne signifie pas, selon l'auteur, qu'elle soit totalement dénuée de sens politique. Ainsi, selon lui, l'essentiel du sens de l'émeute ne réside pas dans les rationalités qui président au choix de la violence comme moyen politique. Parfaitement conscient du danger d'aboutir à une forme d'esthétisation de la violence, Romain Huette se concentre néanmoins sur ce que ressentent les individus plongés dans l'émeute en cherchant à savoir pour quelles raisons ils éprouvent joie et ivresse. Il développe pour ça une écriture bien particulière, centrée sur les affects et une méthodologie participante. Il a participé lui-même depuis 2013 au sein du cortège de tête à de nombreuses manifestations, dont les 10 premiers actes des Gilets jaunes à Paris ou à Nantes. Joseph Confavreux, c'est une approche de l'émeute, il faudra revenir sur ce terme, comme simulacre plus que comme violence réelle, même s'il ne la nie pas, une façon de l'interroger en tant que situation qui met en jeu avant tout des corps.
Oui, c'est un, alors il faut dire un Romain Huet ou Huette, on sait même pas, je sais même pas comment il faut le prononcer.
On va dire Huet pendant cette émission.
C'est un chercheur qui donne de sa personne, hein, son ethnographie des combattants syriens, elle était assez impressionnante, hein, il était jusqu'à très tard sur ce terrain de guerre. Et là, pour sa recherche, peut-être pas que pour sa recherche, aussi pour son plaisir personnel, on a l'impression parfois, il a décidé d'aller au cœur de l'émeute, là on passe des gilets jaunes au black bloc, hein, comme on les appelle parfois, et avec une idée de reprendre à zéro la manière dont est souvent perçue cette catégorie, alors je sais pas si c'est de la politique, mais en tout cas cette catégorie de l'émeute, dont il dit qu'il y a au fond trois manières habituelles de l'aborder, qui sont toutes trois fausses, insuffisantes en tout cas à différents domaines. L'approche des médias mainstream qui veut n'y voir que du chaos, alors que pour lui, la thèse du nihilisme ne résiste pas à l'observation réelle des pratiques. La perspective centrée sur le sens politique de l'émeute, dont il dit qu'elle est limitée parce qu'au fond, c'est toujours ambigu et que si les manifestants n'ont pas de mot d'ordre, en tout cas, ils ne sont pas sans revendication. Et enfin, une approche sociologique qui consiste soit à s'intéresser à la sociologie des manifestants, qui ils sont, d'où ils viennent, soit à sans cesse souligner que puisque au fond, la société est violente, la violence des manifestants n'est que le retour d'une accentuation de la violence sociale. Et lui, il dit, voilà, avec ça, on manque la dimension sensible de l'émeute, celle qui fait que les gens participent, celle qui fait que les gens se regroupent, celle qui fait que les corps s'échangent, et donc il veut s'intéresser aux odeurs, aux bruits, aux transpirations, pour plonger vraiment dans ce qui fait le tournant sensible de la politique. Et qui fait que, c'est vrai que quand on a regardé notamment après les premiers actes des Gilets jaunes, les comparutions immédiates, on voyait bien qu'il y avait des gens qui n'avaient jamais manifesté, qui d'un coup se retrouvaient à lancer des caillasses, à piller des magasins, et étaient presque, quand on les écoutait après devant la justice, surpris eux-mêmes d'avoir été pris dans ce vertige.
Mmh. Oui, Jean-Marie Durand, Joseph Couffaro vient de parler de Black Bloc. D'après moi, le mot n'est jamais prononcé véritablement dans le livre. Il parle, lui, de cortège de tête.
Oui, alors, mais la couverture, quand même.
C'est vrai que les Black Blocs sont un mouvement maintenant qui intéresse évidemment les médias, mais même les sociologues eux-mêmes. On pense à des livres de Francis Dupuy-Déry, d'Olivier Kahn. Il y a plusieurs auteurs qui travaillent beaucoup sur ces mouvements-là. Et c'est vrai que là, c'est pas du tout le problème de Romain Huet qui fait un travail phénoménologique, c'est-à-dire vraiment s'intéressant en effet aux affects, au corps. Il parle de tourbillon d'affects, de vibrations. C'est vraiment, il a un vocabulaire très très comme ça indexé à une sorte de sensible, corps sensible vraiment qui tremble, qui sursaute, qui est traversé par des excitations. Il parle d'une sociologie de la chair et du sang qu'il emprunte au sociologue Loïc Vacant pour vraiment définir un peu le cadre de son travail. Et c'est vrai que c'est un travail de ce point de vue-là assez original, qui exclut complètement toute perspective moraliste. C'est vrai que peut-être beaucoup de lecteurs pourraient être un peu surpris par l'idée de parler de violence comme presque d'une fête. D'ailleurs, il cite souvent Roger Caillois, qui était un historien qui avait beaucoup travaillé sur la guerre et notamment sur un texte assez méconnu, justement, qui s'appelle Bellone, où il faisait une affinité entre l'expérience de la guerre et de la fête, comme une expérience un peu du sacré. Donc il y a quelque chose aussi comme ça chez lui qui est assez intéressant. D'ailleurs, il cite beaucoup d'auteurs, beaucoup de philosophes, d'ailleurs. Il cite Tristan Garcia, par exemple, qui avait fait un livre magnifique qui s'appelle La vie intense, comme une sorte d'intensification de la vie, comme une expérience transgressive, à la fois tragique et non discursive, comme il le dit. C'est-à-dire quelque chose comme une sorte de, voilà, de corps engagé. C'est vrai que tous ces émeutiers, selon lui, sont dans une logique un peu d'oubli d'eux-mêmes, d'oubli de leur corps, de leur identité. J'ai pensé en lisant ce livre, un livre d'un anthropologue que j'aime bien, qui s'appelle David Le Breton, qui a fait paraître un livre il y a quelques années qui s'appelait Disparaître de soi, qui était une sorte de tentation contemporaine qu'ont beaucoup de gens dans leur mode de vie, dans leur pratique, à s'oublier à travers des pratiques un peu, disons, marginales, quelles qu'elles soient. Et là, il y a quelque chose comme une sorte, voilà, de volonté de s'oublier soi, mais pour finalement rentrer dans une sorte de diffusion des corps, un corps collectif qui se met en branle et qui est une sorte d'intensification de la vie. Il y a quelque chose de très fort chez lui sur justement une épreuve vivante du politique que l'émeute permet. Et donc, c'est un peu son angle d'attaque, un angle, j'allais dire, assez inédit, hein. J'ai jamais lu ça encore dans l'analyse des mouvements sociaux. Mais il faut vraiment avoir, je pense, très très clairement en tête que voilà, il y a pas de morale politique qui se dégage de ce livre. Il y a même pas tellement d'idéologie. D'ailleurs, il en parle pas. Il parle même pas finalement tellement de l'engagement politique ou de ce qui guide ces émeutiers dans leur vie. Sinon que ils se sentent entravés dans leur vie, que le quotidien est évidemment sans issue et que c'est une manière aussi à travers l'émeute d'exister, quoi, d'être vivant. Il y a un peu aussi cette tension-là, et d'ailleurs, tout le problème, la tragédie ou l'absurde, comme il le dit lui-même, parce qu'il dit que c'est une expérience absurde, précisément tient au fait qu'on est à la fois dans un moment un peu, en effet, désespéré et en même temps vivant. Et on est entre ces deux motifs-là, et ce qui définit un peu ces émeutiers.
Mais un dernier mot à Joseph Confavreux sur, on va dire, le cadre de ce livre de Romain Huette, Le vertige de l'émeute, de la ZAD aux Gilets jaunes, donc aux presses universitaires de France. Il s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de tournant émotionnel des sciences sociales ces dernières années. Il le dit lui-même, il cite la revue Sensibilité, dont il a été nombreuses fois question ici, publiée par les éditions Anna Mosa, qui est dirigée par deux historiens et une historienne sur ces questions-là de la sensibilité dans l'histoire. Et donc il le dit d'une phrase qu'on pourrait citer, les émeutiers ont évidemment des idées politiques. Seulement, au cours des émeutes, c'est la politique qui passe dans les sensations.
Oui, il a raison de dire que c'est un tournant assez important des sciences sociales. Après, moi, je doute un peu de ce qu'il en fait, parce que il dit que ce tournant émotionnel sensible des sciences sociales ne peut au fond être capté par les sciences sociales telles qu'elles s'écrivent habituellement. Et d'ailleurs, il dit le tumulte politique n'est pas sans effet sur l'écriture, et il reconnaît, il faut quand même citer cette phrase, que sa recherche souffre probablement d'un manque de distance et d'une légèreté dans la rationalité scientifique qu'elle déploie, au motif que l'écriture scientifique ne serait pas apte à saisir vraiment le vertige sensible. Ce qui me semble assez faux. En fait, il y a des écritures qui sont tout à fait capables de rendre compte des sensibilités, et on sent qu'il doute lui-même un peu de son projet, comme il dit, l'intention théorique est ambitieuse mais compliquée à concrétiser. Et il prend comme exemple, parce qu'il dit, voilà, comment est-ce qu'on peut percevoir les affects sur un visage? C'est d'autant plus compliqué que souvent ces visages sont masqués. Donc à la fois, je trouve qu'il a raison de dire, il manque souvent dans l'analyse de l'émeute cette dimension sensible, mais je suis pas sûr que la manière dont il la perçoit, cette dimension sensible, au fond, en refusant la position de spectateur, mais en quittant des fois la position de chercheur, permettent d'y accéder au point où il le veut, même si notamment sur la violence, qui est quand même un gros sujet aujourd'hui, il marque des points, parce que, comme il dit, au fond, la violence, c'est pas la violence chaotique qu'on observe d'une position de surplomb. Il prend plusieurs exemples qu'il a observés où, bizarrement, un policier isolé se trouve face à des manifestants, et en fait, cela ne l'attaque pas. Alors, il y a eu quand même quelques contre-exemples sur lesquels il passe un peu trop rapidement. Mais, il dit, voilà, il y a quelque chose de ritualisé. Il y a des règles. En fait, derrière l'idée du chaos, il y a des règles et des régularités. Et ça, on peut les décrire. Et je trouve que notamment sur la confrontation, il a des moments intéressants, même si par ailleurs, il esquive aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il a l'inverse de la position de surplomb, c'est qu'il est tellement dedans qu'il manque aussi de recul.
J'aimerais dire.
Non, ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est qu'il a quand même, ça fait plusieurs années qu'il a participé à toutes ces...
Depuis 2013,
manifs.
Je crois.
2013, il était à Nantes, à Rennes, à Paris, dans les Gilets jaunes, j'imagine aussi, dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Donc il a quand même un espace de terrain, si je puis dire, assez importante. Ce qui est important aussi, je pense, de dire, c'est que je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas tellement de politique dans son texte et dans, a priori, l'action de ces émeutiers. Mais en fait, il y en a un quand même. Le geste politique fort, disons, entre guillemets, qui est exprimé à travers l'expérience de l'émeute, c'est précisément, c'est une provocation du pouvoir pour dire au pouvoir, en gros, nous, on est ingouvernables. Je crois que vous faisiez une émission il y a très peu de temps sur le livre de Jean-Claude Monod, justement sur l'art de ne pas être trop gouverné. Il y a quelque chose comme ça d'être très important, je pense, dans cette posture-là. C'est qu'il y a l'idée vraiment d'exprimer l'idée qu'on est insaisissable, qu'on est indéterminable, qu'on est rétif aux normes. Et d'ailleurs, il y a des collectifs qui s'appellent Génération Ingouvernable. On voit bien que, en référence évidemment à Foucault, donc on voit bien que l'émeute est l'expression concrète, justement, de... se vouloir précisément rendre ingouvernable. Et ça, ça dit aussi beaucoup de choses sur la politique d'aujourd'hui. On parlait des gilets jaunes tout à l'heure, mais là, on est dans un échelon encore évidemment beaucoup plus intense, dans la transgression des normes. Mais on voit bien que c'est aussi une réalité très décisive, enfin centrale de notre imaginaire actuel.
Oui, d'ailleurs, en se penchant sur la question des sensibilités, en quelque sorte, Romain Huette s'intéresse à des individus, c'est-à-dire qu'on a du mal, à part peut-être dans les passages sur les questions des solidarités qui se créent au moment de l'émeute, c'est assez difficile de monter, on va dire, en généralité, pour avoir quelque chose de l'ordre du commun, d'une revendication collective, et c'est d'ailleurs parfaitement assumé hein, dans le livre, et donc il s'intéresse avant tout à des fictions personnelles, il parle de simulacres de chaos, de créer une ambiance qui fragilise un pouvoir qu'on ne peut renverser, on n'a même pas l'idée, l'espoir selon lui de renverser ce pouvoir, et il s'agit avant tout de retrouver un sentiment d'appropriation du réel dont on aurait été dépossédé, voilà, par une situation politique et sociale qui est celle qu'on peut connaître, et donc simplement, comme vient de le dire Jean-Marie Durand, Joseph Confavreux, de fragiliser le pouvoir. Et donc là, on retrouve encore cette idée qu'il n'y aurait pas de stratégie politique et qui est un petit peu parfois difficile à admettre, hein, je dois bien le dire, qu'il n'y aurait pas de stratégie politique, de volonté politique, mais juste une volonté de créer un espace de fragilité de pouvoir pour rappeler que voilà, on peut aussi être ingouvernable.
Et en même temps, ça va un peu plus loin, parce que ça, c'était un thème qui avait beaucoup été théorisé il y a déjà quelques années sur l'idée de zone d'autonomie temporaire. Là, il va un peu plus loin parce qu'il dit c'est non seulement ouvrir une brèche dans le pouvoir, même si on sait qu'on ne le renversera pas, mais montrer le pouvoir dans sa vérité. En gros, avec cette idée qu'aujourd'hui le pouvoir s'efface, se dissimule, se dissout et au fond utilise des technologies qui ne sont plus les technologies de la confrontation et de la prise du palais d'hiver telles qu'on l'a longtemps pensé, et que donc au fond c'est obligé via la confrontation avec les forces de l'ordre, le pouvoir à se montrer tel qu'en lui-même, et c'est-à-dire pour ceux qui participent à ces émeutes, dans sa violence et son imposition de normes, de faits qui ne résisteront pas à la subtilité de « mais non, en fait, regardez ce que décrit Laurent Jean-Pierre, on vous écoute pour mieux vous taper dessus ». Voilà, c'est dire « voilà, le pouvoir, en fait, quand on le conteste, ce qu'il fait, c'est nous taper dessus ». Donc je trouve qu'il va un peu plus loin que ça. Et il y a un autre aspect qui me semble intéressant, c'est qu'il montre bien que, alors qu'on a l'impression, si on regarde de loin une manifestation de type émeutière, que c'est des individus qui fondent, puis hop, qui se séparent, il montre qu'il y a des collectifs qui se créent au moment même de l'émeute, et des collectifs au fond qui débriefent après. Ça, c'est assez intéressant quand il montre que tout le monde souvent, après, ça se réunit et ça raconte les peurs, les angoisses, mais aussi les courages, ce qu'ils ont fait face aux forces de l'ordre, et que c'est ça aussi qui constitue un collectif qui est très singulier, parce que c'est évidemment pas des gens encartés dans telle ou telle association, organisation, mais qu'il y a quand même dans ces mouvements qui pourraient paraître de l'extérieur très anarchiques, au fond, une économie morale qui va dans le sens de contre la morale commune.
Oui, il va très loin, hein, Romain Huette, puisqu'il va jusqu'à dire que c'est une affirmation de la vie, les émeutes sont créatrices de formes de vie, qui est une expression philosophique, Jean-Marie Durand, qu'on a beaucoup vu fleurir ces dernières années, notamment dans les travaux de Sandra Laugier et Albert Rogien. Il parle d'expression d'une détresse, une réponse au sentiment de perte de la réalité, mais en effet, comme vient de le dire Joseph Confavreux, s'opposer au pouvoir en mettant un petit peu de côté, enfin, il y a quelque chose de presque tautologique, c'est-à-dire que on va brûler des poubelles, faire des barricades pour montrer qu'il y a une réponse violente et sans prévaloir pour dire voilà quelle est la réalité du pouvoir.
Oui, mais c'est encore une fois les manières pour eux d'avoir l'impression d'exister. En tout cas, ils appellent ça une effervescence partagée. C'est la possibilité de créer ce qu'ils appellent un entre-corps, donc quelque chose comme une sorte justement de collectif, comme disait Joseph, qui existe. Et il fait référence d'ailleurs aux travaux de intéressant sur cette question-là précisément de Judith Butler, qui avait fait paraître il y a quelques années un livre sur la performativité comme ça politique des corps et sur justement la manière
dans le commun.
Voilà, exactement, une manière d'exigence, une exigence de vivre corporellement le politique, et qui est un des nouveaux motifs que Judith Butler étudie aujourd'hui à travers une étude de beaucoup de manifestations dans le monde. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'intensité dont on parle, voilà, recherchée par ces émeutiers, elle a aussi d'autres formes dans la vie. Il évoque une posture qui peut paraître complètement opposée à celle-ci, qui est la posture du flâneur. Qui est intéressante aussi, parce que le flâneur, c'est exactement l'inverse, mais le flâneur, d'une certaine manière, lui aussi, cherche à se sortir de lui-même, à se défamiliariser du quotidien, il désapprend la perception, finalement, habituelle du monde. Il est comme une sorte, on parle des chasseurs, des cueilleurs, il y a peut-être les émeutiers et les flâneurs, comme deux postures opposées d'exister aussi dans dans un rapport comme ça, critique au monde réel. Alors voilà, chacun choisit sa forme préférée, mais la statue flâneur, je la trouve intéressante aussi. En tout cas, elle se dégage aussi du livre.
Alors, en effet, à la fin de cet ouvrage, enfin en tout cas dans le chapitre 7 consacré à la performativité des corps, Joseph Confavreux, Roméoette nous dit « Participer à une émeute, c'est sentir son corps pris dans le mouvement d'autres corps ». Et peut-être là le commun, la collectivité.
Oui, mais c'est là où le projet de départ, qui était de ne pas se contenter de faire de la sociologie ou de plaquer un sens politique sur l'émeute, trouve à mon avis sa limite. Et ce qui est intéressant, c'est que au même moment paraît un livre de l'économiste Frédéric Lordon, qui est plutôt proche de ces mouvements-là, mais qui, au fond, congédie gentiment hein, tout ce qu'est le comité invisible, tout ça, et cette fascination pour les corps en révolte. D'ailleurs, il n'est pas contre ça, mais il dit, voilà, quand est-ce qu'on commence à faire de la politique aussi? Est-ce qu'il manque pas quelque chose quand on se contente de mettre en commun des corps? Et dans son dernier livre, l'a publié aux éditions La Fabrique, j'ai l'impression que c'est déjà un peu la critique de ce que dit Romain Huet, c'est-à-dire... C'est important de faire des brèches, c'est important de se constituer, de se reconstituer, mais il y a un moment, il manque quand même une question politique. Même si on a voulu se désarimer des questions politiques telles qu'elles sont posées de manière médiatique ou par les grandes institutions, et ben il y a un moment... on peut pas non plus complètement les évacuer à long terme. Et voilà, je trouve que dans le livre de Romain Huet, il manque sans doute, à force d'être pris dans le vertige, de vouloir décrire le vertige, comment est-ce qu'on atterrit ?
Jean-Marie.
Je suis d'accord, même si je pense qu'à la fin du livre, quand même, cette idée-là transpire quand même, parce que la définition qu'il donne de ce geste, qu'il appelle un geste absurde, une référence au texte de Camus dans le mythe de Sisyphe, justement, le geste absurde, c'est que c'est précisément un geste politique sans appel, qui n'offre aucune issue politique, et il le met en avant. Finalement, ce que l'émeute raconte aussi, c'est une rencontre brisée avec le monde, et c'est pour ça que c'est un geste absurde. C'est un geste dans lequel le possible et la détresse se confondent dans un même mouvement, et c'est cette tension là encore une fois que je pense évidemment assez passionnante de ce geste de l'émeute, dont on ne sait pas très bien quoi faire aujourd'hui, sinon que il faut en prendre acte et constater que voilà, elle est présente dans l'organisation de la scène publique aujourd'hui.
Même si j'avoue qu'arriver à cette conclusion sur la notion d'absurde empruntée en effet à Camus, je me suis dit, mais en lisant Romain Huet, est-ce que véritablement les autres émeutiers, on n'a pas fait un sort non plus à ce terme d'émeute et d'émeutier, est-ce qu'ils se reconnaîtraient vraiment dans cette idée de l'absurde, tout comme dans cette idée qu'il n'y a pas de stratégie politique ou de but véritablement proprement politique à leur action, mais simplement une façon d'être pris, de retrouver une vie intense, de retrouver un sens au réel, voilà, Joseph Confavreux, je ne sais pas où en étiez-vous de vos réflexions à ce moment-là du livre, mais j'avoue que moi, cette conclusion sur l'absurde, après avoir passé 140 pages à décrire un petit peu ce vertige de l'émeute et comment on retrouve du sens à sa propre vie, ça m'a un peu surpris.
Oui, je suis pas certain non plus, parce que quand on lit les textes du site Lundi Matin ou les textes du Comité Invisible, qui sont assez proches hein, du cortège de tête que décrit Romain Huet, pour ne pas dire plus, eh ben ils ne cessent de penser la stratégie politique. En même temps, ils estiment qu'au fond, développer comme ça, intensifier le cortège de tête, ça fait partie d'une stratégie politique très large. C'est là où le livre est intéressant. Précisément parce que Romain Huet se laisse immerger dans un type d'émeute en plus, les types d'émeutes ZAD, Gilets jaunes à Paris et à Nantes. Mais quand aujourd'hui, là, je parlais tout à l'heure du mouvement émeutier qui semble embraser une partie du monde, bon, bah, on va pas dire aujourd'hui aux émeutiers irakiens ou chiliens que c'est absurde. C'est-à-dire que il est quand même pensé dans une stratégie précise du maintien de l'ordre, de la démocratie française qui, avec tous ses défauts et ses dérives qu'on a vues aujourd'hui avec Laurent Jean-Pierre, sont importantes, mais n'atteignent pas les niveaux de violence qu'ils atteignent dans d'autres pays. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il lui manque quand même un élément qui est quand même important quand on s'intéresse aux mouvements sociaux, c'est-à-dire la notion de répertoire d'action. Et là, on est dans des répertoires d'action, hein, notion forgée par Charles Tilly il y a déjà quelques décennies. Et là, il manque un peu ça, c'est-à-dire que l'émeute, on a l'impression qu'elle est Alors, il dit bien qu'elles sont différentes, mais en fait, les émeutes, elles sont pas pareilles. En marge de la manif pour tous, il y a eu des émeutes venant de l'extrême droite française. Elles ressemblent pas exactement à ce que décrit Romain Huet. Évidemment, d'un pays à l'autre, les émeutes ne sont pas les mêmes, parce que les services d'ordre, parce que les forces de l'ordre ne sont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes tactiques. Et je trouve que ça, du coup, ça manque un peu. C'est-à-dire qu'on est là sur les corps, sur les corps, sur les corps, mais on n'a pas, au fond, le point de vue qui permettrait, sans être surplombant, de prendre un peu de recul et de monter en généralité pour mieux comprendre, y compris la spécificité de ce que Romain Huet décrit.
Même si, encore une fois, Romain Huet reconnaît la différence d'intensité, de mise en jeu de sa propre vie, il dit bien que c'est pas du tout la même chose de participer à un cortège de tête en France. Non, mais je le dis parce que ça pourrait être Joseph Confavreux entendu, évidemment. En tout cas, ça pourrait être une critique qu'on lui apporterait. Si on n'avait pas encore lu ce livre, Romain Huet, Le vertige de l'émeute, de la ZAD au gilet jaune, c'est donc publié aux presses universitaires de France.
L'instant critique.
L'instant critique, dernier moment de l'émission, ce moment où nos amis Jean-Marie Durand, Joseph Confavreux vont partager des lectures peut-être. Vous avez un livre, je vois, Jean-Marie Durand.
J'ai un livre d'un philosophe qui s'appelle Étienne Elmer, qui publie chez éditions Verdier, Ici et là, une philosophie des lieux. Je voulais en parler rapidement parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé ici même depuis quand même pas mal de temps et même ces derniers mois de tournant spatial, de la question du territoire, du lieu, etc. Et ce que je trouvais intéressant dans ce livre-là, qui est un livre assez original, c'est que Étienne Elmer, qui est philosophe, met en lumière un peu l'angle mort de la philosophie vis-à-vis de ces questions. C'est vrai que le lieu, le territoire était une réflexion beaucoup investie par les sociologues, les anthropologues, les historiens, les géographes, évidemment. Mais les philosophes, assez peu. Et donc, il essaie de repenser d'un point de vue philosophique la question des lieux pour en faire non pas seulement des cadres physiques d'existence, mais également des idées, des matrices de l'espace imaginaire, comme il le dit. Et il s'intéresse à l'œuvre de Rousseau, de Diogène, de Foucault, de Marc Augier, l'anthropologue aussi, bien sûr, pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce qu'un lieu, est-ce que c'est un espace à la fois pensant et agissant. C'était un regard assez décalé par rapport à peut-être à toutes les lectures que l'on fait depuis quelques temps sur ces enjeux-là, mais que je trouve intéressant. Il vient enrichir, disons, un corpus de pensée aujourd'hui très très vive sur cette question du lieu et du territoire.
Ici et là, c'est donc le livre d'Étienne Elmer aux éditions Verdier. Joseph Confavreux.
Moi, c'est également un livre, mais un livre de photographie intitulé Contamination, signé par le photojournaliste Samuel Bollendorf. Beaucoup de ces photos qui sont dans ce livre accompagnaient à l'origine une hallucinante série qui avait été publiée dans Le Monde à l'été 2018, qui avait fait le tour du monde, le tour de la planète, pour montrer des territoires rendus littéralement impropres à l'habitation humaine du fait des pollutions industrielles. Donc sur ces photos, il est beaucoup question de méthane, d'acide prussique, de phosgène, de phosphore rouge, d'oxyde d'éthylène, de chlorure de vinyle, de dérivés d'arsenic, de cyanure, de soude caustique, de pétrole, de bisphénol. Voilà, il y a certains éléments chimiques, certains d'autres qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas, mais toutes ces molécules et ces produits de synthèse se concentrent à certains endroits à tel point dans les eaux et les sols qu'ils rendent parfois pour des millions d'années ces territoires inhabitables. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans un moment où l'annonce de la catastrophe est partout au point d'entraîner un peu de lassitude et ou de déni, le travail de Samuel Bollendorf a le mérite de donner à voir que la catastrophe n'est pas un grand coup de Trafalgar dont on ne sait exactement quand il se produira, mais en fait est déjà là, ici et là, à des rythmes différents selon les endroits, et qu'il y a des coupables comme des hommes et des femmes qui luttent contre, parce que c'est bien sûr un enjeu politique et pas une catastrophe naturelle. Donc pour cela, je trouve qu'il arrive à se tenir à distance à la fois de ce qu'on désigne parfois par la pornographie des ruines, hein, ça y est, notre monde est écroulé, et d'une représentation trop esthétisante ou apaisée de ce que l'homme fait à la Terre. C'est donc un livre qui s'intitule Contamination, publié par les éditions E/P/A, et à moins de 25€, ce n'est pas très cher.
Pour un livre de photographie, vous avez raison. Il faudra qu'on mette les références sur le site, parce que j'ai pas attrapé le nom de la maison d'édition. Joseph Confavreux, merci à tous les deux d'avoir participé à Avis Critique. Je rappelle les deux ouvrages dont il était question ce soir. Laurent Jean-Pierre, In Jérôme, les leçons politiques des ronds-points. Romain Huet, Le vertige de l'émeute, de la ZAD aux Gilets jaunes. Vous l'aurez compris, on a parlé des 1 an du mouvement des Gilets jaunes, en tout cas la première manifestation du 17 novembre. Attachée d'émission, Catherine Denet et Mélissa Foust. À la réalisation aujourd'hui, c'était Vanessa Nadjar. À la prise de son, Manon Houssin. Vous pouvez évidemment réécouter cette émission sur le site de franceculture.fr, à la page d'avis critique. Vous pouvez aussi télécharger et vous abonner au podcast. Dans quelques instants, Jukebox.